À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du bienheureux Karl Leissner. Karl Leissner, c'est le seul homme qui ait été ordonné prêtre à Dachau, dans un camp de concentration. Et il sera aussi question brièvement d'un autre bienheureux, le père Lichtenberg, qui a été arrêté par la Gestapo en octobre 1941. C'est à Berlin que le pape les a proclamés bienheureux tous les deux. Ces événements terribles nous rappellent que c'est aujourd'hui la fondation, le 800e anniversaire plutôt, de la fondation des Trinitaires. Eux qui se sont dévoués depuis 1198 au rachat des captifs, comme on dit, c'est-à-dire à la libération de ceux qui étaient enfermés, comme dans des camps de concentration, réduits à l'esclavage, en Afrique du Nord par les musulmans, c'était des chrétiens, et eux-mêmes s'offraient parfois pour remplacer une centaine de laïcs. Ils étaient prêtres, ils arrivaient avec ces vêtements extraordinaires, ce costume magnifique, avec cette grande croix rouge et bleue que l'on a connue, nous, dans notre jeune temps, dans les rues de Montréal et un peu partout. Et cet esprit désir de libérer ceux qui sont comme ça capturés, captifs, torturés, mis à mort un peu partout dans le monde encore aujourd'hui, revient à la surface chez les Trinitaires de plus en plus. Ils retrouvent leur vocation du début. Mais se sont toujours intéressés à la libération intérieure. Alors aujourd'hui, bien, nous aurons deux bienheureux captifs prisonniers, tous les deux à Dachau. C'est le 17 décembre 1944, le troisième dimanche de l'Avent, l'anniversaire, à Dachau, qu'on a vécu à l'époque un des moments les plus émouvants de toute cette histoire tragique, de cet immense camp de concentration dont on connaît bien le nom, Dachau. C'est l'ordination sacerdotale d'un diacre, le diacre Karl Leissner, L-E-I-S-N-E-R. C'est un événement qui en évoque d'autres semblables, dans le passé, à l'aube du christianisme d'ailleurs, alors que les chrétiens devaient se terrer dans les catacombes. Et c'est toujours un peu comme ça, penser au Soudan, c'est de pire en pire, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas au Soudan. Ça fait souffrir des millions de gens, en grande partie des chrétiens et des catholiques. L'ordination sacerdotale du bienheureux Karl Leissner, qui est mort jeune, dans un camp de prisonniers, c'est la seule qui a été rapportée dans la longue histoire des camps d'extermination des nazis de 1933 à 1945. Il faut bien se dire que le secret de la force de l'Europe, c'est le Christ. Ces mots souvent répétés un peu partout par Jean-Paul II, le secret de la force de l'Europe, c'est le Christ. Eh bien, Karl Leissner les écrivait avant d'être envoyé au camp de concentration de Dachau. Il a vécu avec un courage extraordinaire. Le dimanche 23 juin 1996, c'est tout récent, au stade olympique de Berlin. Eh bien, celui-là même qui a vu les Jeux olympiques de 1936 sous le régime nazi, hein, ce stade de Berlin, eh bien, ce stade olympique qui a vu aussi l'exaltation du régime national-socialiste, ce fameux stade, eh bien, c'est là que Jean-Paul II a proclamé bienheureux ce jeune prêtre allemand qui n'a réussi dans sa faiblesse qu'à célébrer une seule messe, Bien, il a été proclamé bienheureux, comme je l'ai dit, en même temps qu'un autre prêtre, qui lui était prévôt de la cathédrale de Berlin. Et puis, comme Karl Leisner, il a été un témoin de la foi face à ce régime épouvantable, ce régime totalitaire. Et le nom de ce deuxième bienheureux, ce prêtre, c'est Bernhard Lichtenberg. Karl Leisner est né le 28 février 1915 à Rees en Basse-Rhénanie. Puis passe sa jeunesse à Clèves. Il adhère là, très jeune, au mouvement de la jeunesse catholique allemande. Puis il fait du Christ vraiment le guide de sa vie. Oui, il fait du Christ le guide de sa vie. Il écrit dans son journal, qu'il va tenir d'ailleurs pratiquement toute sa vie, cette phrase qui me bouleverse chez quelqu'un de jeune, « Christ, je suis passionné de toi. » À l'avènement d'Hitler, il a 18 ans. 18 ans, c'est jeune, 18 ans. C'est un jour sombre pour l'Allemagne, note-t-il dans son journal. Il est d'ailleurs encore, pour ainsi dire, adolescent, quand il se met à s'intéresser aux problèmes de la jeunesse, puis il le fait avec beaucoup d'ardeur. Vous entendez bien, les jeunes qui m'écoutez, il a votre âge, 16, 17, 18 ans. Il organise pour les jeunes des cercles récréatifs pour les réunir et les arracher à la rue. Il organise des camps de jeunesse. Il organise aussi des conférences religieuses, déjà si jeunes. Et puis, son but est de donner à la jeunesse catholique allemande une vraie formation religieuse. Pas n'importe quoi. Une vraie formation religieuse chrétienne, empreinte de la grandeur de la foi catholique. L'emprise de ce jeune Karl Leisner sur les jeunes, bien évidemment que c'est vite remarqué par son évêque, Monseigneur Clément Auguste von Galen, futur cardinal d'ailleurs, que les nazis ont surnommé le lion de Münster. Il lui demande de prendre, cet évêque lui demande à Karl de prendre la direction des mouvements de jeunesse dans son diocèse. Ses activités, évidemment, n'échappent pas à la surveillance de la police secrète du Reich, la Gestapo. Le parti nazi avait décrété que toute animation auprès de la jeunesse relevait seulement de l'État. Un peu comme ici, on voudrait que toute l'éducation de nos jeunes, pourtant de tradition catholique, nous sommes 85% de la population du Québec. Et il faudrait que nos écoles n'aient plus d'enseignement religieux. C'est ce que dit la présidente de la CEQ, dont qui fait les manchettes ces jours-ci. On se met donc à surveiller de près Karl Leisner, ce jeune homme. On surveille ses paroles. On remarque ses gestes. Tout ce qui peut être un crime contre l'État, on l'observe. Tout ce qui peut être un crime contre le Parti national-socialiste, d'Hitler, et pour tromper la surveillance, le jeune Karl Leisner conduit ses jeunes dans des excursions en dehors de l'Allemagne. On va en camping en Belgique et en Hollande, et là, on peut y discuter librement. Librement. Jusqu'à un certain point, car on ne sait jamais qui est dans le groupe, qui va parler, qui va raconter, sans trop le vouloir, des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais de toute façon, Karl Leissner met bien en lumière les distinctions à apporter entre les doctrines d'Hitler puis l'enseignement de l'Église. C'est ce qu'il dit aux jeunes. Et malgré la propagande nazie, qui opposée aux activités religieuses, Karl Leissner organise des messes dominicales pour ses groupes. Il réunit des prêtres. Les dirigeants nazis l'identifient rapidement comme un jeune homme dangereux. Et là, la Gestapo, police secrète de l'État, fait donc une perquisition dans sa maison et emporte son journal dans lequel il a écrit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû écrire. On prend ses écrits aussi et la plupart de ses livres pour savoir où il s'abreuve. Et les documents qui ont été saisis, c'est surprenant, ont été conservés dans les archives des nazis. Ils ont été préservés, et c'est comme ça qu'on peut lire ce qu'il a écrit aujourd'hui. Et on y voit combien était héroïque ce jeune leader religieux. Alors, attiré par le journalisme, il passe son baccalauréat en 1934 à 19 ans. Et il s'oriente après mûre réflexion vers le sacerdoce. Alors, décidé à devenir prêtre de Jésus-Christ, il entre au grand séminaire de Münster. Et à la demande de son évêque, Monseigneur von Galen, dont je viens de vous parler, qui sera cardinal, c'est une des grandes figures de la résistance catholique au nazisme, Monseigneur von Galen, eh bien, Karl Leissner assume la responsabilité de dirigeant diocésain des jeunes. Il partage donc son temps entre sa propre formation de séminariste et le service de ses camarades. Évidemment qu'il n'en faut pas plus pour que la Gestapo le surveille. Il est de nature robuste, Karl Leissner. Sa santé, pourtant, va être ruiné en 1937 par une année de travail obligatoire passée à assécher des marécages, la Gestapo l'ayant obligé à faire des travaux extrêmement difficiles. Et c'est là qu'il contracte la tuberculose. L'année suivante, en 1938, le 25 mars, le jour de l'Annonciation, le jour où le Christ s'incarne dans le sein de Marie, le Fils de Dieu, il est ordonné diacre. Et il doit aller se reposer dans la forêt noire. Il va être ordonné prêtre un peu plus tard, comme je vous ai dit au début de l'émission, à Dachau. Mais à ce moment-là, on croit qu'il va l'être plus tôt. Mais comme il est atteint de la phtisie pulmonaire, il est obligé de subir une cure dans un sanatorium de la forêt noire. Et quand la radio annonce que le Führer Adolf Hitler a échappé à Monaco à l'attentat de George Elser, Karl Leissner, sur son lit d'hôpital, laisse échapper une parole qui va lui coûter cher. Il dit, c'est un vrai péché d'avoir raté Hitler. Et l'exclamation est entendue par un autre patient du sanatorium qui le dénonce à la Gestapo. Alors, Karl Leissner est arrêté le 9 novembre 1939. Et il est gravement malade. Il n'a que 24 ans. Karl Eisner est donc détenu à 24 ans en prison à Fribourg pendant quelque temps, prétendument pour des raisons de sécurité publique, comme le dit sa sentence officielle. Inconcevable. Sécurité publique, alors qu'il ne fait qu'enseigner l'Évangile, à donner à des jeunes le sens de leur vie, qui est de vivre du Christ dans l'adoration de Dieu, dans le souci des autres. Inconcevable. Alors Karl Eisner connaît donc la prison, puis le camp de Sachsenhausen, et enfin Dachau, le fameux camp de Dachau, où près de 3000 prêtres et séminaristes sont internés pour avoir osé tenir tête à ce régime païen, je dirais même vulgaire, inconcevable, des nazis. 3000 prêtres et séminaristes, on n'en parle à peu près jamais. On croit qu'il n'y a personne. Pourtant, je vous ai fait des émissions sur certains d'entre eux. Alors Karl Eisner va passer ainsi dans ce camp à Dachau toute la guerre, de plus en plus atteint par la maladie, mais il aspire toujours au sacerdoce. Et là, dans ce camp, les autorités nazies ont interné donc ces prêtres diocésains religieux. Et le camp dépend de Heinrich Himmler. Vous vous souvenez de ce Heinrich Himmler, chef de la Gestapo. Karl Eisner arrive donc au camp de Dachau un jour de fête, le 8 décembre 1940, le jour de la fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Et comme les autres détenus, il est affecté à différents travaux, mais son état de santé est lamentable. La phtisie qui le mine s'aggrave de jour en jour malgré la charité des co-détenus qui prennent souvent une part de leur ration pour lui assurer une meilleure nourriture. On sait qu'il est diacre. Il crache le sang de plus en plus. Les autorités du camp le transfèrent à l'infirmerie, finalement, en mars 1941. Je vous signale que c'est là qu'il va demeurer, à l'infirmerie du camp, jusqu'à la libération par l'armée américaine, en avril 1945. Il aura alors, à ce moment-là, 30 ans. Hein? Donc, la plupart de ses compagnons de prison sont convaincus que Karl Eisner, à l'infirmerie, ne pourra survivre longtemps, dans un pareil milieu. Mais Karl, même s'il ne parvient pas à surmonter la tuberculose qui le mine, en prend tout de même son parti. C'est un tempérament jovial. Oui, il est toujours joyeux et plein d'entrain, toujours joyeux et plein d'entrain. Ça rappelle le début de nos préfaces. Pour rendre grâce, toujours et en tout lieu, toujours être joyeux et plein d'entrain, toujours et en tout lieu, rendre grâce à Dieu. Il soutient les autres en rendant grâce à Dieu. Il les soutient par ses paroles d'encouragement, par des gestes de gentillesse. Parfois, le soir venu, il invite les autres à chanter des cantiques. Vous savez, comme les Allemands aiment chanter. Ils chantent bien ensemble. Hein? Alors, ils chantent. Et il fait comme il le faisait autrefois quand il faisait l'animation auprès des jeunes dans l'Action catholique. Il les amenait au besoin, comme je vous ai dit, en camping, en Hollande, en Belgique. Il réussit aussi à se faire apporter la communion, clandestinement. Très, 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 très dangereux. Mais il garde en son cœur un but bien précis. c'est d'être ordonné prêtre. Il veut être prêtre. Aussi, lorsque Monseigneur Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand en France, qui a été arrêté pour avoir aidé des Juifs, en avez-vous déjà entendu parler de cet évêque qui a été arrêté pour avoir aidé des Juifs? Je suis fatigué parfois de nous faire dire par certains Juifs que nous n'avons rien fait, que Pie XII n'a rien fait, etc. Je vous ai fait des émissions sur Pie XII, mais un jour je vais vous en faire une sur tous ces catholiques admirables, et tous les autres aussi, les luthériens, et même des communistes ou des incroyants, qui ont fait des choses admirables pour aider les Juifs. Je me demande s'il y a beaucoup de Juifs qui aident les Palestiniens actuellement. Il y en a une juive, une avocate qu'on a vue à la télévision récemment, une avocate juive, catholique, convertie au catholicisme, qui est extraordinaire de courage en Israël. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui se passe? Je donne donc le nom encore de cet évêque admirable, Gabriel Piguet, P-I-G-U-E-T. Et là, comme il a été arrêté, les prêtres qui sont internés veulent que le jeune diacre Karl Leisner, qu'on a surnommé l'ange de Dachau par sa gentillesse, sa bonté, accède au sacerdoce. Et de fait, avec l'autorisation de l'archevêque de Munich, qui est secrètement contacté, bien Monseigneur Piguet, dans la nuit du 17 décembre 1944, va réussir, je vais vous raconter ça, à lui conférer clandestinement, évidemment, l'ordination. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ben, on a fabriqué vaille que vaille des ornements liturgiques. Et même une crosse épiscopale en bois. Une crosse épiscopale en bois, elle a été conservée. Et Jean-Paul II a tenu à l'utiliser lors de la messe de béatification du 23 juin. C'est extraordinaire. C'est que il y a aussi trois autres prêtres détenus là au bloc 26 où va avoir lieu l'ordination. Elle a donc lieu, comme je vous ai dit, le 17 décembre 1944. Et la tuberculose galopante a réduit le malade à un grand épuisement. Et grâce à la bienveillance vraiment fraternelle des autres détenus, on parvient à le faire reposer un peu avant l'ordination. Et il est ordonné prêtre, assis sur un tabouret. Les ornements épiscopaux ont été apportés au camp en grand secret, et on a ajouté en fabriquant des choses pour compléter tout ça. Et ça, on fait ça en exposant tout le bloc 26 à des représailles épouvantables. Imaginez le courage de ces gens. Nous qui avons si peur de nous affirmer ici dans ce pays, nous qui sommes si silencieux devant les crimes commis contre les enfants à naître, nous qui sommes si silencieux devant la destruction de notre enseignement religieux, nous qui sommes si silencieux devant toutes les moqueries qu'on adresse aux prêtres dans des continuités, dans des drames à la télévision et tout ça, c'est épouvantable. Alors Reinhold Friedrich, un prêtre du diocèse de Münster, qui était lui aussi détenu, il a participé à la cérémonie, voici ce qu'il a raconté. Et écoutez bien ça, c'est superbe. Il raconte un événement extraordinaire et émouvant que cette ordination. Le candidat, pâle, amaigri, frissonnant sous son uniforme de prisonnier à bandes rayées. L'évêque consécrateur en habits pontificaux, sous lesquels dépasse le bout des pantalons de la division des détenus. Voilà, c'est le spectacle. Environ 30 prêtres en habit de prisonnier imposent les mains en silence au moment où l'évêque consacre le nouveau prêtre. Karl Leisner n'a pas encore 30 ans. confiné à l'infirmerie, il ne put en sortir que le 26 décembre, fête de Saint-Étienne martyr, pour la célébration de sa première messe. C'est la seule qu'il a pu dire. Et le texte se termine ainsi. Il ne put jamais, par la suite, quitter le lit pliant où il était confiné à l'infirmerie. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à un des héros de la dernière guerre, le bienheureux Karl Leissner, ainsi que à un autre prêtre qui a vécu le martyr des camps de concentration, le bienheureux Bernard Lichtenberg, qui était prévôt d'une cathédrale. Connaissez-vous ce psaume 50 comme il faut, qu'on entend dans cette musique admirable du compositeur polonais Heinrich Gorecki? Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Eh bien, Karl Leissner ne semble pas avoir commis grand faute. Non, vraiment pas. Il s'est donné à Dieu complètement, totalement, avec une foi, pour ainsi dire, sans borne. Et le 29 avril 1945, c'était la fin de la guerre, ou presque, les troupes américaines sont arrivées au camp de Dachau. Mais le malade Karl Leissner doit y séjourner encore quelques jours, tellement il est faible. Les amis du nouveau prêtre réussissent à le transporter hors de Dachau. Libéré le 4 mai 1945 par l'avance des troupes alliées, Karl Leissner, épuisé, est conduit au sanatorium de Planegg dans la principauté de Monaco, là où Hitler a failli se faire tuer dans un attentat. Il est toutefois trop tard pour lui sauver la vie. La tuberculose a atteint son point culminant. Heureux d'être prêtre, heureux d'avoir tout fait par amour du Christ et par fidélité à l'Église, Karl Leissner, le bienheureux Karl Leissner, est mort le 12 août 1945. La dépouille mortelle de cet homme merveilleux est transportée à Xanthem, où elle est placée dans une crypte près de deux martyrs du national-socialisme d'Hitler, Gerhard Stohr et Heinz Bello. Deux autres noms. On pourrait vous en faire des listes pendant des heures de ces héros dont on ne parle jamais. Dans la crypte de cette localité, Xanthem, appelée Victoria Dome, on vénère les reliques des martyrs mis à mort par les légionnaires romains il y a 2000 ans. La fondation de cette petite ville, Xanthem, a été faite par l'armée romaine au premier siècle du christianisme. C'est pourquoi elle est appelée Ad Sanctos, ou si vous voulez, le lieu des saints, d'où est dérivé le nom actuel de Xanthem, qui veut dire les saints. Oui, les saints. Qui nous sont proposés comme des exemples vivants du Christ aujourd'hui, afin qu'on puisse faire comme eux, mais trouver le bonheur, en se donnant totalement sachant que Dieu agit en nous quand on s'abandonne à lui. Le 4 septembre 1945, Monseigneur Clément von Galen écrit aux parents de Karl Leissner, il leur écrit, « Je veux exprimer à vous les parents et à vos autres fils ma sympathie cordiale pour la mort de Karl. »
Écoutez bien ce qu'il leur dit.
« Bien plus, je vous présente mes félicitations. »
Étrange.
Et il ajoute, « Je crois en vérité avec certitude que vous avez fait au ciel le cadeau d'un saint. » Et c'est ça la charge des parents. Dieu met dans les bras des parents un enfant qu'il a créé dans le sein de la mère. C'est lui qui fait l'enfant. Les parents sont incapables, je vous l'ai dit souvent, de faire un enfant. Comment faire des yeux, un cerveau, un cœur qui bat au 19e jour après la conception? Comment faire tout ce système nerveux, cette capacité de mémoriser, de parler, de savoir que demain existera? Comment faire un enfant? C'est Dieu qui le fait. Eh bien, il le donne, il le met, Dieu, dans les bras des parents pour qu'ils en fassent un saint. Et voilà que cet évêque dit bien aux parents de Karl Leisner, « Je crois en vérité, avec certitude, que vous avez fait au ciel le cadeau d'un saint. » Et Karl Leisner a été, comme je vous ai dit, béatifié dans le stade olympique à Berlin avec Bernard Lichtenberg, le 23 juin 1996. Jean-Paul II a déclaré à cette occasion, « Il est très significatif que ce soit précisément à Berlin que se soit déroulée la béatification de deux martyrs de l'idéologie et de la violence nationale-socialiste. Le curé Bernard Lichtenberg et le jeune prêtre du diocèse de Münster, Karl Leisner, ordonné clandestinement dans le camp de Dachau. Tous les deux sont morts victimes du système totalitaire qui ne pouvait tolérer leur attitude pastorale. Ils ont sacrifié leur vie pour le Christ. » On pourra lire d'ailleurs la vie du bienheureux Karl Leisner, intitulé « Comme l'or passé par le feu », deux points, Karl Leisner, 1915-1945, par René Lejeune, René Lejeune, aux éditions du Parvis, c'est près de 300 pages, « Comme l'or passé par le feu », Karl Leisner, par René Lejeune, aux éditions du Parvis. Mais tout autre, mais non moins exemplaire, est le parcours que je tiens à vous résumer de ce prêtre merveilleux qu'est Bernard Lichtenberg. Né en 1875 à Ohlau, dans la Silésie, en Allemagne, aîné d'une famille de cinq enfants profondément catholiques, Bernard Lichtenberg, qui accompagnait chaque matin sa mère à la messe, après ses études secondaires, il a commencé ses études théologiques pour devenir prêtre à Innsbruck. Mais il a dû les poursuivre et les achever à Breslau. Ordonné prêtre en 1899, il va occuper diverses charges pastorales avant d'être affecté à la cathédrale Sainte-Edwige de Berlin en 1931. En 1935, en raison de la maladie du vicaire capitulaire, eh bien, le chanoine Bernard Lichtenberg est chargé de l'administration du diocèse. Et il y continue son combat.
Quel combat?
Un combat, je me demande qui parmi nous, moi le premier, aurait l'audace. Combat contre l'idéologie nationale-socialiste, commencé avant la prise et l'accession au pouvoir de Hitler, il était l'un des premiers à combattre. Dès le lendemain de la fameuse nuit de cristal en novembre 1938, ça vous dit quelque chose? Cette nuit qui marque le début de la persécution contre les Juifs, eh bien, cet homme, ce prêtre, commence à prier tous les soirs, ou dans la cathédrale même, avec les fidèles. Il prie comment? Il prie pour le peuple juif, ouvertement. Il prie pour tous les persécutés du nazisme, ouvertement, dans la cathédrale. Imaginez. Les nombreuses mises en garde de la part de la Gestapo ne l'arrêtent pas. Il est décidé. Il déclare, il faut être héroïque, héroïque. Si nous, les prêtres, ne parlons pas, les gens ne sauront quoi penser des mensonges diffusés par la propagande du régime. Je me permets de répéter sans vouloir blesser les prêtres, moi qui suis laïque. Mais je le dis, car je sais qu'il y a des prêtres au grand cœur qui m'écoutent. Il y en a qui me téléphonent et qui m'écrivent et qui me touchent beaucoup par les paroles qu'ils me disent pour m'encourager. Eh bien, je répète ces paroles de leurs confrères, de leurs bienheureux confrères, le père Bernard Lichtenberg. Si nous, les prêtres, ne parlons pas, les gens ne sauront quoi penser des mensonges diffusés par la propagande du régime. Alors, le père Lichtenberg est arrêté par la Gestapo le 23 octobre 1941, sur dénonciation. Comment peut-on dénoncer un homme si admirable? Où est le cœur de ces gens affreux? Des monstres. Alors il subit, lui, un procès au cours duquel des commentaires qu'il avait écrits sur des discours d'Hitler et sur Mein Kampf, l'ouvrage, le livre terrible d'Hitler, lui sont portés à charge. Ses textes lui sont portés à charge, ses propres textes. Il est condamné moins d'un an plus tard, le 22 mai 1942, à 2 ans de prison pour ce qu'on appelle abus de chair, C-H-A-I-R-E, hein, la chair là où on prêche dans les églises autrefois. Il en reste encore des chairs dans nos églises, on ne s'en sert plus. Je le signale pour les plus jeunes qui m'écoutent. Alors donc, il est condamné pour abus de chair. Une fois purgé sa peine, au bout de 2 ans, il refuse de renoncer à ses sermons, comme l'exigent les nazis. Imaginez ça. Ah, moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment il prenait son courage. Une fois purgé sa peine, il refuse de renoncer à ses sermons. Alors, il est qualifié de danger public. Il est envoyé au camp de concentration de Dachau, malgré sa santé défaillante. Et ce prêtre admirable meurt avant même d'y arriver, le 5 novembre 1943, à Hof, à la frontière avec la Tchécoslovaquie. À partir de l'évangile du jour dans lequel saint Matthieu rapporte ces mots du Christ, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. » C'est Jésus qui a dit ça. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. » Eh bien, Jean-Paul II, à partir de ce texte-là, a exalté l'action de ces deux nouveaux bienheureux. Avez-vous déjà lu l'encyclique du pape Pie XI? Rédigé, paraît-il, en bonne partie par le cardinal Pacelli, futur pape Pie XII. Eh bien, c'est en anticipant en quelque sorte sur les recommandations de cette encyclique écrite en allemand, Mit Brennender Sorge, du 14 mars 1937, adressée aux catholiques allemands. J'ouvre les guillemets, « En cette heure où votre foi est éprouvée comme l'or au feu de la tribulation et de la persécution, tant ouverte que cachée. »
C'est le pape qui parle en 1937, le 14 mars, en s'adressant aux Allemands, en parlant de ce feu de la tribulation et de la persécution tant ouverte que cachée. Et c'est en quelque sorte donc sur les recommandations de cette encyclique que Karl Leissner et Bernard Lichtenberg, comme beaucoup d'autres prêtres et laïcs, je le répète, à l'exemple des évêques von Galen de Münster et von Preissing de Berlin, sont entrés en résistance et ont exercé la charité puis la sollicitude du bon samaritain. Comme le souhaitait l'encyclique. Vous avez le goût de lire ça, cette encyclique peut-être? Le texte intégral de l'encyclique Mitbrennender Sorge a été publié en 1991 avec celui de l'encyclique Divini Redemptoris sur le communisme avec des introductions de François Rouleau et Michel Fourcade et une présentation du père Michel Salles dans Pie XI, c'est un ouvrage, Pie XI, Nazisme et communisme, deux encycliques de mars 1937. C'est paru chez Desclés, c'est 200 pages. Ça se vend environ $23. Mais ça vaut la peine, c'est là qu'on voit que les papes ont dit beaucoup plus qu'on pense. On ne les écoutait pas, ils s'attaquaient le communisme. Bah, on disait, et nous sommes devenus marxistes. Regardez, dans le dernier numéro de l'actualité, tout l'impact du marxisme, et Lisiane Gagnon a déjà publié un ouvrage là-dessus pour montrer jusqu'à quel point nos syndicats, notre système d'enseignement, quand notre presse, même un peu, était sous l'emprise de marxistes québécois, qui n'écoutaient absolument pas ce que, évidemment, les papes disent. Et ce qu'ont dit les papes aussi sur le nazisme. Comme nous sommes sourds, ces deux bienheureux, béatifiés récemment donc par Jean-Paul II, Bernard Lichtenberg et Karl Leissner, viennent s'ajouter à deux autres Allemands victimes du nazisme. Saint Edith Stein, philosophe d'origine juive, devenu la carmélite Bénédicte de la Croix, qui est morte à Auschwitz le 14 août 1942. Et puis, le père Rupert Mayer, dont je vous ai parlé le 12 novembre, mais tout récemment, ce jésuite boiteux de Munich, comme on disait, mort dans cette ville de Munich le 1er novembre 1945. Nos deux bienheureux d'aujourd'hui s'ajoutent également à quatre autres martyrs non-allemands de la barbarie nazie, eux aussi élevés sur les autels, hein, Saint Maximilien Kolbe, dont je vous ai déjà parlé aussi, ce franciscain polonais mort à Auschwitz le 14 août 1941. Il y a aussi le bienheureux Titus Brandsma, un carme hollandais, mort à Dachau le 26 juillet 1942, et dont je vous parlerai bientôt, le 23 février. Il y a aussi le bienheureux, un Français, un jossiste français, Marcel Callot, oh, un jeune, qui est mort à Mauthausen, où a été enfermé André Frossard. Eh bien, Marcel Callot est mort le 19 mars 1945, et je vous en parlerai le 19 mars prochain. Il y a aussi le bienheureux Michel Kozal, un évêque auxiliaire en Pologne, qui est mort à Dachau le 23 janvier 1943, et que je ne connais pas du tout. Si vous avez des renseignements sur cet évêque, bienheureux Michel Kozal, je serais ravi de lui consacrer une émission. Donc voilà des saints, des bienheureux, qui sont comme l'avant-garde des témoins de la foi face au national-socialisme, ce régime abominable, nazi d'Hitler, qui seront sans doute suivis de beaucoup d'autres bientôt dans l'Église, quand l'Église reconnaîtra le martyr de ces gens dont on ne connaît pas encore les noms, peut-être. Mais il y a des recherches qui se font, et les textes s'écrivent, et des livres sont publiés, et petit à petit, ils nous seront encore proposés comme modèles à notre foi, comme encouragement à nous tenir debout. Les deux nouveaux bienheureux, a dit Jean-Paul II dans son homélie, triomphent aujourd'hui dans le lieu même où ce régime a abusé de l'idéalisme de toute une jeunesse et a incité les hommes à la haine. Au lieu de les encourager à la coexistence pacifique, j'ajouterai, quoi faire alors? Si ce n'est de reconnaître Jésus-Christ, révélation de l'amour de Dieu notre Père, en ce début de l'année que l'Église consacre à Dieu notre Père. Car lorsque paraît celui qui se dit le Fils de Dieu, on va fêter ça bientôt, le Fils unique du Père, Dieu lui-même venant parmi les hommes, alors tout est changé. Et ces bienheureux, ces saints ont vécu de cette homme, Dieu, de Dieu fait homme, Jésus. Comme saint Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est évident qu'il y a une continuité avec le long cheminement de la révélation qui a préparé Israël, le peuple juif, à recevoir cet ultime témoignage de l'amour de Dieu pour son peuple, et à travers lui pour l'humanité tout entière. Le message s'est étendu à toute la terre avec le Christ. Mais, en même temps, tout est nouveau. Hein? Ce sont vraiment des temps nouveaux qui commencent avec Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est en nous. Dieu est en nous. Et nous sommes en lui. Et l'alliance nouvelle, ce mariage merveilleux que Dieu noue avec l'humanité, la relation là qu'il veut vivre avec chacun de nous au sein de cette alliance, comme je dis, de ce mariage, si vous voulez, sont exprimés en termes qu'on n'avait jamais entendus avant que Jésus vienne sur cette terre. Le Fils de Dieu. Voici ce qu'il dit au chapitre 6 de saint Jean. « De même que le Père qui est la vie m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi. » Manger le Christ, c'est écouter sa parole et recevoir l'Eucharistie. Celui qui me mange vivra par moi. Il dit aussi que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. C'est toujours dans saint Jean. Et les paroles du Christ mettent toujours en relation l'union qu'il vit avec son Père, et celle qu'il veut absolument jusqu'au fond de tout son être, celle qu'il veut nous faire vivre avec lui puis en lui. Il y tient tellement qu'il ne nous laisse jamais tranquilles. Il est toujours là qui frappe à notre porte, toujours, même au creux de nos plus abominables péchés. Oui, ces paroles nous ouvrent un mystère qui dépasse toutes nos pensées. C'est le mystère d'une communion d'amour à laquelle ont atteint les deux bienheureux d'aujourd'hui et tous ces saints dont je vous parle. Le mystère d'une communion d'amour qui est la vie même de Dieu et en laquelle nous sommes invités à entrer avec lui. Ce qui nous est révélé, c'est quoi? C'est en même temps le secret de la vie intime de Dieu et son dessein, son projet, sa hantise, je dirais, de nous y donner part, de nous le faire partager. Dans le Christ, nous est révélé d'abord le secret de la vie divine. C'est uniquement dans la lumière de cette révélation que nous pouvons entrevoir la profondeur de l'intimité à laquelle Dieu nous invite. Dans une vraie participation à sa vie, un vrai engagement dans la communion d'amour qui est la vie et qui mène aux besoins, aux martyrs. comme j'admire ces prêtres extraordinaires, ces laïcs aussi dont on parle moins, mais il y en a beaucoup qui ont tenu tête et qui se sont tenus debout, hommes et femmes, et même des tout jeunes, dans un courage incroyable. Dans ce psaume miséréré, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, dit le psalmiste, renouvelle et affermis mon esprit, ne me rejette pas loin de toi. » Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par ton esprit généreux. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu as tendu, alors les coupables reviendront à toi. Ô Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Pour que j'annonce avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer.